Bonjour chers amis auditeurs et merci d'être avec nous ce matin pour notre rendez-vous catholique hebdomadaire. Et notre invité est Mgr Calvé, archevêque de Nouméa. Mgr, bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons fêter dans quelques jours la dédicace de la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome. Et c'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de nous parler des édifices religieux en Nouvelle-Calédonie. La construction d'églises, le bâtiment, a été un élément important de l'implantation de cette église locale. Vous-même, durant toutes ces années d'épiscopat, vous avez inauguré, béni, consacré nombre d'églises et de chapelles.
C'est vrai, quand je regarde le nombre d'églises qui ont été construites en Calédonie, c'est très impressionnant. Les premières ont été construites en dur, c'est des églises comme l'île des Pins, comme Arama, comme Lilouin. Et donc on a des églises qui sont anciennes, comme Naketi, et puis les églises de la côte Est, Touo, Thiers. Et un certain nombre de ces églises ont bien tenu le coup parce qu'elles étaient entretenues, et entretenues en fait par les paroisses. C'était principalement les paroisses qui veillaient à mettre les églises en sécurité au moment de l'approche des cyclones, à veiller à refaire la couverture quand c'était nécessaire. Et ça a toujours été un point important de la participation des fidèles, parce que le peuple de Dieu ne se rassemble pas, quand c'est possible, seulement sous un arbre. C'est tout à fait les premiers temps de l'évangélisation, des récits autant des Actes des Apôtres que du début de l'évangélisation, par exemple dans l'archipel voisin au Vanuatu, où ça a commencé sous un arbre, avec un tout petit groupe. En Calédonie, les fidèles, en général, tiennent à avoir un lieu qui soit en fait symbolique, comme la tradition vient de l'Ancien Testament. Le lieu, c'est le lieu de la rencontre de la communauté et de la rencontre de la communauté avec Dieu. Et il est important aussi que le lieu ait un patronage, parce que c'est la fête patronale du village, de la tribu, du quartier. Depuis que j'ai été en fonction, eh bien, j'ai reconstruit un certain nombre de ces églises anciennes, certaines qui étaient devenues difficiles à entretenir ou qui étaient vraiment au bout de ce qu'elles pouvaient donner comme service. En particulier, il y a déjà longtemps, c'était une des premières assez grandes églises que j'ai bénies, c'était à Dueulu, à Lifou. Et l'ancienne église était encore là, mais la nouvelle église, celle qui est en service actuellement, a été bénie, donc c'était dans les années 80. Depuis, eh bien, ça doit faire peut-être une dizaine d'églises de plus de 200 places, c'est-à-dire des grandes églises, que j'ai bénies. Les églises dans le diocèse de Nouméa sont bénies à ce que la cathédrale qui est consacrée solennellement. Il y a quelques autels qui sont consacrés, mais généralement les églises sont seulement bénies. Et je ne compte pas la multitude de chapelles. Là, c'est peut-être une trentaine de chapelles que j'ai bénies. La première, c'était en 1979 ou 80 à Caragreux. Mais depuis, c'est un grand nombre, tant dans les paroisses de l'intérieur que dans les paroisses même du Grand Nouméa, comme Yahoué, la Sainte Famille, comme Sainte-Thérèse Robinson, comme La Coulée, comme Sainte-Thérèse Gomène, comme Saint-Pierre Chanel d'Imbéa, qui est, elle, est une reconstruction, comme Boulou Paris, comme Pauta, comme Nanyuni, et puis je pourrais continuer comme ça tout au long des tribus de la Grande Terre. Ce qui compte, et ce sur quoi on se met d'accord, c'est d'avoir un statut qui est clair pour un lieu qui obtient d'être béni comme chapelle. La chapelle, une fois qu'elle est bénie, elle devient un lieu d'accueil de tout le monde. Ce n'est pas l'oratoire d'une famille ou d'un clan, mais c'est un lieu qui accueille tous les croyants, tous ceux qui veulent se recueillir et partager la prière dans un endroit qui est symbolique de la réunion de la communauté. Si bien que des églises, on en a des grandes, on en a certaines qui ont des histoires un petit peu compliquées. Par exemple, Canala, il y a une grande église qui a été construite, qui est récente, et l'ancienne église était une chapelle qui était provisoire. Et depuis, juste après la dernière guerre mondiale, il y avait eu un projet de construire une église. C'était Étienne Zongo, notre ancien directeur de l'enseignement catholique, qui rappelait le temps où il était garçon, et avec son père, le vieux Paul, qui était catéchiste, qui était avec le père Luneau à Canala, et il rappelait que déjà, juste après la guerre, il faisait des kermesses pour la construction de l'église de Canala. Et après, pendant des années, on n'a plus parlé de rien. Si bien que, comme beaucoup d'autres personnes, il était persuadé que l'évaporation ayant fait son effet, eh bien, tout ce qui avait été recueilli pour construire cette église avait été perdu. En fait, lorsque le groupe, avec Mathieu, a repris le projet de construction de l'église de Canala au lieu où il voulait vraiment construire cette église, Notre-Dame de l'Assomption, ils sont venus voir la procure ici, le père Pierre, qui leur a dit « mais il y a une somme qui est déposée et qui a porté des intérêts. Il y a d'ailleurs beaucoup plus d'intérêts que de sommes déposées à l'origine. » C'est ce qui leur a permis de commencer les travaux et de commencer dans de bonnes conditions. Toujours est-il que maintenant, il y a une belle église à Canala, et cette église fait l'honneur de la paroisse avec ses vitraux correspondant à ses 12 chapelles, les 12 tribus de Canala, qui ont chacune leur chapelle.
D'après ce que vous nous dites, la naissance de ces projets vient souvent de la communauté, du lieu.
Presque toujours, cela vient de la communauté, sauf dans quelques cas, parce que, par exemple, quand les communes du Grand Nouméa, au moins pour les cas que je connais bien, se sont peuplées rapidement, on avait des systèmes aussi d'occupation des sols qui ne permettaient pas d'avoir accès aux fonciers. D'où la difficulté de mettre une église au loin du centre où la population allait apparaître. C'était un problème. La caractéristique de cette situation, c'est Apogoty. Et Apogoty, c'est le diocèse qui a dû prendre l'initiative de trouver non seulement un terrain, ce qui a été fait avec l'aide des autorités, mais aussi de rassembler les moyens pour permettre de construire et de construire suivant les normes qui étaient en vigueur dans ces nouveaux quartiers. Inutile de vous dire que la dépense dans ce cas-là a tendance à s'envoler. Et c'est une charge qui a été lourde, mais ce qui avait été provisionné pour faire face à des situations de ce genre a permis d'amener le projet d'Apogoty. Et maintenant, on a une église qui fait plaisir à voir dans un quartier qui est tout nouveau.
Et très peuplé.
Et très peuplé, aussi bien qu'évidemment, les gens qui sont dans ce quartier bénéficient en arrivant, et c'est important de ne pas perdre de temps, d'un lieu de rassemblement de la communauté chrétienne.
Alors au niveau du vocabulaire, vous utilisez soit le mot « église », soit le mot « chapelle ». Quelle est la distinction ?
Alors traditionnellement, on dit plutôt « église » pour une église paroissiale. Mais il y a un certain nombre d'églises qui sont quelquefois des paroisses qui sont plusieurs paroisses sous la responsabilité d'un ou d'une équipe de prêtres. Si bien que quand l'édifice est grand, souvent on parle d'église. Et donc à la rivière Salée, c'est une église, bien que ça ait commencé par une chapelle. De la même manière à Moravel, Saint-Michel de Moravel, je me rappelle bien, c'était donc en 1999, quand on a fêté les 50 ans d'ordination du Père Michel, c'était le 29 septembre, on a eu cette bénédiction de l'église Saint-Michel, et c'était un moment important, non seulement pour les gens du quartier, non seulement pour le Père Michel Cohu qui célébrait son jubilé, mais également pour tous ceux qui ont Saint-Michel comme patron, pour l'évêque qui faisait la bénédiction, bien sûr, pour moi-même, mais aussi pour les parachutistes qui étaient là et qui avaient tenu à apporter les offrandes en descendant en parachute. Imaginez descendre en parachute dans un quartier qui est dominé par quelques lignes électriques à 150 000 volts. J'étais un peu inquiet. Le général Comsup qui était à côté de moi m'a dit « ne vous faites pas de soucis, ce sont des professionnels ». Mais quand même, quand les parachutistes sont arrivés au sol, il m'a dit « je suis quand même plus tranquille ».
Même si chacun de ces édifices ne dispose pas malheureusement de prêtres sur place en permanence, on constate que c'est quand même un besoin des communautés de disposer d'un lieu de rassemblement, d'un édifice voué à la prière.
On l'a construit dans le Grand Nouméa, et ça c'est un petit peu une ligne que j'avais recommandée, des lieux de culte, donc des chapelles, des églises, des lieux de catéchèse. Parce qu'il est essentiel d'avoir des lieux de catéchèse, c'est-à-dire des salles de catéchèse qui servent éventuellement aussi de salles de réunion. On a construit peu de presbytères, parce qu'il ne faut pas construire des presbytères pour avoir des logements inoccupés. Si c'est nécessaire, on peut construire des presbytères, comme cela a été fait par exemple à la rivière Salée. Mais dans beaucoup de cas, comme à Apogoty, il n'y a pas de presbytère. Par contre, il y a des salles de catéchèse. Et j'ai pu vérifier il y a peu de temps en rencontrant ceux qui préparaient leur confirmation que ces salles de catéchèse sont vraiment bien occupées et que les paroissiens sont contents de s'y retrouver.
Eh bien, merci Monseigneur pour ce bref historique des chapelles et des églises. Et merci à vous, amis auditeurs, de nous retrouver chaque dimanche. Nous vous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine et bien sûr, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain.